Salut tout le monde, Tommy Godette au micro. Bienvenue à ce 14e épisode de Terrain Basique, un podcast entièrement consacré à Magic the Gathering et en français. Bilingue, hein, parce qu'on caste des spells. Je suis accompagné par Martin Godette, le seul qui n'a pas de micro parce qu'il est à la console et il est possédé par la joie. Il y a Jason, fidèle compagnon. Ça va?
Ça va super.
Toi, tu connais ça, Magic, hein? Pas peur de rien. François Lompré, collaborateur de longue date sur la page Facebook de Terrain Basique.
Oui, oui, oui.
T'as dit ton... Vas-y, excuse-moi.
Ah, j'ai dit salut les magiciens.
Et voilà, on va l'avoir bien entendu. Et on a, en fait, celui qui va être à l'honneur aujourd'hui, notre juge de secours, Maxime Aymon. Ça va, mec?
Ouais, ça va bien, toi?
Ben oui, certain. Très content que tu sois avec nous encore une fois.
Ben, merci bien.
On va, aujourd'hui, on va parler avec toi surtout. On va essayer d'en apprendre sur ce qu'est un juge, ce que vous mangez d'habitude, où vous devenez juge. Est-ce que c'est vrai que c'est un ange qui vient de l'Est vous porter la connaissance dans un petit baguise? C'est toutes des questions auxquelles on va répondre aujourd'hui à Terrain Basique. Mais tout d'abord, on commence le show. Je veux savoir, parce qu'il y a quand même un aspect hasard à Magic, hein? On pige des boosters, on s'ajoute des boosters. Oui, c'est vrai, hein? Je mentionne le fait qu'on est en train d'écouter en background Megaman 3, un jeu vidéo. Je me rappelle, je l'ai eu en même temps que la cassette à vendre des bleus poudres. Et donc, pour moi, la trame sonore de Megaman 3, c'est aussi beaucoup la cassette à vendre des bleus poudres. Ça avait été ma fête en 1992, je pense. On était si jeunes. On était si fous. Et donc... Si jeune, si fou, on pige des boosters. Un souvenir d'un booster mémorable, mon François?
Ben, une fois, c'est ça, j'étais allé acheter juste un booster, puis j'ai pogné Jace Bellerin, le premier qui ont sorti.
Ouais.
Le pire, c'est que je l'ai tradé on the spot, là. Mais ouais, ça a été mon meilleur. Juste un booster, puis je pogne de quoi de mon gars, là. C'est ça.
C'est fun quand ça arrive.
Ouais.
Dans le temps de World Wake, moi, j'avais fait un draft, puis j'étais fini dernier, fait que j'avais eu un booster, parce qu'il donnait un booster à tout le monde. Puis quand j'ai craqué le pack de World Wake, j'avais un Jace the Mind Sculptor et un Jace the Mind Sculptor Foil dans le même pack.
T'avais deux fois la même carte.
Ouais.
Quand même, c'est concept, ça. C'est sûr qu'il ne devait pas avoir beaucoup de boosters avec cette option-là dedans.
Non.
Et toi, Jason?
Ben moi c'est, ça a arrivé plusieurs fois. C'est un petit truc là, que je vous donne. À un moment donné, j'avais ouvert un booster, puis une des cartes, la bordure noire en bas, dans le fond, il y avait eu un problème, là, quelqu'un avait coupé.
Un misprint,
fait qu'il était juste là, coupé, là, tu sais, avec la bordure noire, t'es trop épaisse d'un côté, puis de l'autre côté, tu vois, la cote, t'es juste sur le bord okay. Où la couleur commence. Puis je me suis renseigné là-dessus, puis ça m'est arrivé plusieurs fois par la suite, puis je me suis rendu compte que ça, c'est vraiment simple quand ça t'arrive. Tu prends ta carte avec ton reçu que t'as payé ton draft, tu mets ça dans une enveloppe, t'envoies ça à Wizard of the Coast, puis t'envoies un booster, puis une copie propre, ben... Il te renvoie dans le fond cette carte-là, ouais. Plus un booster. Fait que j'ai fait comme. Moi, à chaque fois, ça m'arrive quand j'ouvre un booster puis qu'il y a une carte. T'sais, comme
t'as un
crush.
Booster gratuit, là.
Bon, ouais, puis je fais un draft.
C'est
là,
une commune cheap que tu ne serviras jamais, mais
je la garde.
Crush, je veux mon booster.
J'appelle ça un free booster.
Yeah, ben c'est quand même
c'est
un bon truc à se rappeler.
C'est un bon truc à savoir.
Je pense que c'est Noël, pas l'année passée, l'autre avant. J'étais à la petite place à chanter du karaoké, puis Guise de Pessamier, le jeu c'est sérieux, le gars du jeu c'est sérieux, et des jokes de papa, m'a amené un booster pour me souhaiter joyeux Noël, et je l'ai ouvert et j'ai pogné une version foil d'un land. Ça te donne un blanc ou un rouge. Ben, en fait, c'est pas vrai. Tu la sacrifies, puis tu peux aller chercher une plaine ou une montagne. Voilà, celui-là. Et c'était une version foil. Puis j'ai checké, puis à l'époque, ouais, c'est ça, la carte elle valait genre 110$. Puis là, j'y ai dit à Guise et on a été heureux et on a bu.
Ah, t'as donné?
Ben, je l'ai gardé.
Tu joues pas à Magic, lui? Ah, tu l'as gardé.
Ben okay. Oui, j'ai gardé la carte.
Ouais, écoute, c'est là.
Elle est avec ma pile de Dual Land mythique, là, dans une autre maison, dans un coffre-fort.
J'aime ça avoir des boosters à ma fête ou à Noël. C'est que c'est un peu l'équivalent
d'un gratteur. Mais que tu gagnes des choses, c'est sûr, à chaque fois.
Non, c'est sûr que si vous connaissez un magicien, là... tu te poses pas de questions comme cadeau, là. Tu y achètes des boosters ou whatever, un produit de Wizard of the Coast, c'est sûr qu'il est content.
C'est sûr. Un booster.
Minimum, un booster.
Bien dit, mon François. Ben, merci beaucoup, messieurs. Je pense qu'on s'en va vers la carte de la semaine. cette semaine, c'est moi qui choisis la carte de la semaine et je suis allé avec un vieux classique, une affaire qui a été rééditée un petit peu différente. Mais bon, c'est Grave Pact, un enchantement totalement noir. Hein. On parle de 3 mana noirs, ça veut dire que c'est noir. Et un colorless, c'est un enchantement qui fait que à toutes les fois que, mettons, c'est moi le contrôleur de Grave Pact, j'ai une créature qui va au graveyard pour whatever la raison. Et là, tous mes adversaires doivent sacrifier une créature, eux. C'est le fun, hein? Fait comme ça, ça permet de repeupler les graveyards qui sont en cruel manque de vos monstres à vous autres. Et ça me permet à moi de savoir venir voir ça. Fait que je peux gérer pour me faire d'autres monstres autrement. Mon Grave Pact, je l'aime.
Oh, et puis il l'a refait aussi sur un autre nom. Fait que tu peux la mettre, tu sais, comme en Commander.
Oui.
Tu peux la mettre deux fois. C'est Dictate of Erebos.
Ouais.
Qui fait exactement la même chose, mais pour 3 colorless, 2 noirs.
Et ça peut être flash. Une créature, hein?
Ah, qui flash, oui.
Ça peut être une créature aussi, je pense. Vu que c'est un god, ça?
Ben, Erebos, c'est le god, mais ça, ouais. C'est l'enchantement.
Ah, okay,
c'est comme son pouvoir, là.
Ouais.
C'est que chaque fois que t'as une de tes créatures qui meurt, tout le monde autour de la table, faut qu'il sacrifie. C'est vraiment fort. C'est vraiment
le fun. Gros luxe.
Le gros luxe.
Et voilà, c'était la carte de la semaine. Hey Jason, avant d'aller parler à notre juge, tu voulais nous parler d'un petit tableau comparatif que tu as trouvé.
Oui, je vous avais parlé dans l'épisode 9, je crois, de Frank Carson, ce PhD en probabilité.
Scolastique.
En tout cas, c'est dur à dire, mais bon, c'est la science des probabilités. Il a fait un article explicatif sur où ce qui explique, dans le fond, pourquoi tu mets tant de copies d'une carte dans un deck de 60 cartes. C'est un bon truc à retenir là, quand vous construisez vos decks. Donc, ce qu'il suggère, c'est que si tu veux absolument piger ta carte le plus souvent possible, généralement au début de la game, et que ça te dérange pas que tu en as plusieurs copies dans ta main au début, tu vas la mettre 4 fois dans ton deck.
Ben oui.
4 fois étant le maximum de fois que tu peux mettre
une carte
dans un deck dans de 60 cartes, tu peux mettre jusqu'à 4 fois la carte. Pas en draft, by the way. En draft, les gens souvent, ils le savent pas, mais en draft, tu peux mettre autant de fois que tu veux la carte. Sauf que c'est plus difficile d'en avoir plusieurs copies parce que c'est le format du draft. Là.
En draft et en sealed.
En draft et en sealed, oui. Donc, 4 copies, là, c'est que tu veux souvent avoir cette carte-là. Puis, si tu en as 2 au début dans ta main, c'est pas grave. Après ça, 3 copies, si tu veux absolument avoir cette carte au milieu de la game, mais tu veux éviter de la piger plusieurs fois dans ta main de départ. Fait que c'est à ce moment-là que tu vas mettre ta carte en 3 copies. Généralement, ça va être des cartes d'un casting cost en 3 ou 5. 2 copies d'une carte, c'est que tu veux pas voir cette carte dans ta main au départ, parce que généralement, ça va être une carte avec un très haut casting cost. Puis tu veux surtout pas la piger plusieurs fois dans ta game.
Okay.
Tu en as juste besoin une fois, puis ça va compter. Généralement, c'est une carte qui va faire un effet semblable à celle que tu as 4 copies. T'sais, comme une sorte de complémentarité.
Ouais, une version diète.
Ou qu'elle sert là, de comme un finisher. C'est une carte là, que quand tu vas la jouer, ça va finir la game.
Okay.
Mais tu ne veux pas la piger au début. Fait que c'est pour ça que tu vas la mettre deux fois dans ton deck. Puis le une copie, généralement, c'est une carte que tu vas trouver en pigeant plusieurs cartes. Par exemple, avec des effets de tutor. Des cartes qui te permettent d'aller fouiller dans ton deck pour la trouver.
Deck n'est pas basé dessus.
C'est ça. Donc ça, c'est ça. Ça va être une bombe avec un très gros casting cost. Puis quand tu la joues, et une fois dans ton deck, puis tu sais que quand tu vas sortir, tu vas avoir assez de mana pour la jouer. Puis généralement, ça va faire la différence.
Et voilà.
Donc ça, c'est un petit truc là sur quand vous vous demandez est-ce que cette carte-là, je la mets 3 fois ou 2 fois, suivez ce guide-là. Puis,
Ouais. Entre le 3 et 2, je trouve ça un petit peu plus flou. Moi, 3, je me dis que je vais en piger une dans la game, puis 4, je vais en piger 2.
Qu'est-ce que t'en penses, monsieur le juge, là-dessus? Ça fait du sens?
Oui, ça fait pas mal de sens. Je suis quand même d'accord sur ce sujet-là. Une chose que pour les cartes qu'on met des fois, une fois ou deux fois, ça n'a pas besoin d'être des cartes qui ont de très très gros casting cost. C'est juste des cartes qu'on sait qu'on va juste en avoir besoin de une pour finir la game. T'sais, exemple, je pense un peu en moderne où genre des decks qui sont basés comme Storm qui sont basés au complet sur le graveyard vont juste jouer deux Grapeshot. Passing Flames. 2 Pass in Flames, la carte qui donne flashback à toutes les Instant Sorcery dans le graveyard.
Ouais. Très pratique. Hein,
très pratique.
Merci beaucoup, Jason, pour ces belles notions mathématiques. Ce qui nous amène à notre gros chunk de la semaine. C'est pas un gros chunk, là, très slim pour un joueur de Magic.
J'essaye.
Monsieur Maxime Aymon, donc, parle-moi de ton parcours en tant que joueur de Magic. T'as dit déjà que t'as commencé au primaire, mais pourquoi après ça être juge et tout?
Ben, j'ai commencé au primaire. Ma première game de Magic sanctionnée, c'était à Rise of the Eldrazi. C'était un draft. Puis à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser plus à Magic compétitif, etc. Fast forward dans le temps, j'ai joué, j'ai arrêté, j'ai recommencé, j'ai arrêté un peu comme tout le monde. Puis entre l'école, la job, etc., les parcours académiques, j'avais pas tout le temps de m'investir en tant que juge. Mais là, récemment, j'avais du temps pour m'investir en tant que juge. Fait que j'ai commencé, j'ai toujours voulu être juge, mais récemment, c'est le temps que j'ai pu le faire. Fait que j'ai commencé en 2017. Mon parcours de juge, j'ai fait
C'est quoi t'as fait? T'avais une salle où t'allais jouer souvent, puis t'as demandé aux personnes là comment je fais pour devenir juge?
Ben, je connaissais déjà des juges parce que je jouais compétitif, puis quand tu joues du compétitif, tu vois assez souvent les mêmes juges qui reviennent tout le temps pour juger, fait qu'on se connaissait. Je leur ai dit que j'étais intéressé à devenir juge, puis c'est comme ça que j'ai commencé mon parcours.
Est-ce que c'est vrai que vous sautez par-dessus une chèvre à la fin du rituel?
Non.
Non?
Non.
Il n'y a pas de rituel d'initiation?
Non.
Ouais, genre boire du sang?
Manger une carte?
Ouais. Non. Non, il n'y a pas de rituel d'initiation. En tout cas, moi, je n'ai pas eu. Puis j'en ai jamais entendu parler.
Okay, ben peut-être que t'es pas un vrai juge, genre de la cabale des juges. Là. Non, c'est pas vrai, ma gueule. OK, donc continue. Là, tu viens de commencer ton parcours.
C'est ça. Puis pour devenir juge, je sais que c'est une question que beaucoup de monde se demande. Comment est-ce qu'on devient un juge? En gros, comment est-ce qu'on devient un juge? Ça va vous prendre... Vous allez devoir connaître un juge niveau 2 à un certain point dans le processus. Fait que c'est important de connaître un juge niveau 2. Si vous en connaissez pas, demandez aux personnes avec qui vous jouez à Magic dans votre game store local. C'est pas mal sûr qu'ils en connaissent un.
Comment ça se compte, ça? C'est-tu... Tu commences-tu niveau 3, puis tu montes niveau 2, niveau 1? Tu commences niveau 1, puis tu montes, puis après, tu peux monter, comme les scientologues, genre.
J'imagine.
C'est ça, OK.
Mais non, sinon... il va falloir connaître un juge niveau 2. Évidemment, les juges niveau 1, c'est surtout basé pour juger ce qu'on appelle les événements réguliers. Les juges niveau 1, c'est les juges que vous allez voir dans les pre-releases, dans les FNM. C'est vraiment ça qu'ils font.
FNM, c'est Friday Night Magic. Okay.
Après ça, le parcours pour devenir niveau 1, évidemment, il faut connaître les règles de Magic. Ils vont pas te demander de connaître 100% des règles de Magic. Il y a personne qui connaît 100% des règles de Magic. Puis tous les juges sur notre téléphone, on a toute une application qui a toutes les comprehensive rules parce que c'est 200 pages plus écrit bien fin là, t'sais. Fait que on a toute une application pour ça. Mais d'un autre côté, il y a quand même des règles de base qu'il faut connaître, la structure d'un tour, comment le stack fonctionne. Plusieurs choses, beaucoup de choses que je peux pas toutes énumérer, mais il faut connaître ça. Et il faut aussi connaître ce que nous autres on appelle le JAR. C'est un document de 2 pages, c'est Judging at Regular. C'est un document de 2 pages, c'est une page recto verso, ça te donne des directives sur comment interagir en tant que juge dans des événements réguliers.
Des espèces de petits trucs sociaux, là, genre...
Ouais, des trucs sociaux, puis comment régler les cas les plus fréquents que tu vas avoir à régler.
T'as-tu un exemple de cas fréquent?
Un exemple de cas fréquent, ça peut être juste quelqu'un qui oublie un trigger. T'sais, on a parlé, il y a beaucoup de cartes qu'on a nommées ou que vous avez nommées dans des épisodes passés qui ont des triggers. Qu'est-ce que tu fais si tu oublies ton trigger? Une des conceptions...
Trigger étant l'effet d'une carte s'actionne parce qu'il y a eu un autre...
Une
carte qui rentre en jeu,
c'est ça.
Généralement, elle va avoir un trigger.
Elle peut avoir un trigger ou un replacement effect. Ça dépend comment c'est écrit.
Et ça, les triggers, on ne peut pas ne pas les vivre. C'est un trigger, c'est pas une affaire qui est activée. Si tu mets la créature en jeu et qui est écrit à quelque part « When a creature comes into play, blablabla », ben, le trigger arrive.
Le trigger arrive. L'affaire, c'est que si on est humain et on oublie le trigger, c'est là que ça devient un petit peu difficile, surtout quand est-ce qu'on va se rappeler du trigger.
Y a-tu, mettons, la différence entre « you may » puis « you gain »
Y a une différence avec le « you may » à compétitif, mais tant qu'on est à régulier, que ce soit « you may », que ce soit pas « you may », le jar, le, en fait, le document du jar va dire, va donner au juge deux choix. Soit on continue à jouer, puis le trigger arrive pas. Ça c'est, on utilise surtout ça quand ça fait un bon bout de temps ou quand ça a un gros impact sur la game. Comme ça aurait dû être fait le tour passé, t'aurais dû ramener, mettons, on a parlé de God's Pharaoh's Gift. Si jamais t'oublies ton trigger à l'autre combat, ben on va pas te donner une créature de plus. Tu l'as oublié,
on recule pas dans le passé.
C'est ça, tu l'as oublié. Sinon, l'autre possibilité qu'on peut faire, c'est, ben ok, c'est pas, ça fait pas un si gros impact, ça fait pas trop longtemps, on va juste mettre le trigger tout de suite sur le stack. Ça, c'est à régulier. À compétitif, c'est complètement différent.
Dans le sens que souvent, ça doit être celui qui a oublié son effet tout bad. Là,
dans le sens qu'on va donner le choix à ton adversaire s'il veut le mettre sur le stack ou non.
Ah, voilà.
Puis là, à compétitif, on va creuser vraiment plus profond dans, dans les types de triggers. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif pour toi? Puis s'il y a une action par défaut, je ne rentrerai pas là-dedans. Je pourrais faire un podcast au complet là-dessus. Okay. Fait que,
Un jour.
Mais non, c'est ça. Le jar va donner des informations. Le judging at regular va donner des informations sur comment gérer les cas les plus. Après ça, évidemment, faut connaître ces deux documents-là. Après ça, on va avoir un entretien avec un juge niveau 2 qui va nous parler, qui va apprendre à nous connaître, qui va voir à quel point est-ce qu'on connaît les règlements et etc. Puis il y a aussi une partie de social qui est nécessaire parce que veut pas on va voir plein de gens. Puis habituellement quand ils demandent un juge,
c'est dans des étapes compétitives, dans un cadre compétitif aussi là.
C'est ça.
Puis, tout le monde veut avoir raison, tout le monde qui va te parler.
C'est ça. Fait qu'il faut avoir une certaine diplomatie, puis c'est quelque chose qu'il faut qu'on pratique, puis c'est quelque chose qu'il faut qu'on évalue, même si c'est pas une règle, il faut qu'on l'évalue quand même, le niveau de diplomatie de la personne. Après ça, une fois que le juge niveau 2 il dit bon ok c'est bon, t'as l'air d'être un bon candidat, il faut juger deux événements. Je sais que ça a l'air bizarre parce qu'il faut que tu juges les événements avant de devenir juge. Pour juger un événement, tant
que t'es supervisé, c'est comme un professeur qui a une supervision dans la classe.
C'est le juge niveau 2, normalement, avant de donner son autorisation, il va regarder la personne juger un événement. Habituellement, ça va être un pre-release, un game day ou un FNM. Game day, c'est échangé les store championships maintenant que ça s'appelle.
Ouh. Ça, c'est comme un pre-release.
Bon, c'est à la fin, c'est un peu comme un standard showdown.
Okay.
C'est à la fin du standard.
Est-ce que les magasins sont tous obligés de les faire?
Non. Le magasin fait ce qu'il veut. Le magasin organise les événements qu'il veut. C'est sûr que plus d'événements, normalement, c'est mieux, mais il organise ce qu'il veut.
Ouais, puis vu qu'il y a des bons prix qu'il donne, c'est il est encouragé à le donner. Là.
C'est ça. Puis après ça, t'as l'examen. L'examen de niveau 1, c'est 25 questions choix multiples, puis la note de passage est 70%.
J'aime ça. Ben oui. J'aime ça, cette note de passage-là.
Puis je pourrais élaborer sur niveau 2, mais niveau 2, c'est beaucoup plus complexe. Mais
t'as-tu passé comme un test écrit qu'il a fallu que t'envoies à Wizards of the Coast?
Une des grosses affaires que les gens savent pas, c'est que Wizards of the Coast a à peu près aucun lien avec les juges. Le corps des juges est considéré comme une organisation volontaire.
Oh, cool.
Ça n'a aucun lien légal avec Wizards of the Coast pour des raisons purement légales. Il y a toujours des liens entre Wizards et les juges, évidemment.
Ben, sûrement que c'est ça. Les juges envoient du feedback et après ça, il y a du wording qui peut être changé. Il y a des cartes qui peuvent être rendues bannies ou des errata. Parce qu'au final, c'est l'oracle en ligne qui a raison. Ça.
C'est toujours l'oracle en ligne. Surtout quand on parle de vieilles cartes, mettons Lord of Atlantis, ça dit pas exactement la même chose sur l'oracle.
Ben, moi, j'ai une petite question.
Vas-y.
Là. Y a-t-il un privilège d'accorder à être juge?
Il n'y a pas nécessairement un privilège en tant que tel. C'est on fait surtout ça pour la communauté et l'amour du jeu.
T'es pas payé, là.
Puis ça doit...
On n'est pas payé par Wizards. C'est sûr que quand on fait des événements compétitifs, mettons, puis qu'on se déplace pour une journée, on va négocier une compensation avec l'organisateur du tournoi.
Ouais, parce que là, tu parlais de juger pendant 14-15 heures des tournois.
Ben, 14-15 heures,
ça, c'est... À un moment donné, c'est le fun, l'amour du jeu, mais c'est parce qu'un coup que c'est commencé, tu peux plus t'en aller parce que ça te tente plus, là, faut que tu restes.
C'est ça. Les 14-15 heures, ça, c'est beaucoup plus les team lead dans les Grands Prix ou les Magic Fest maintenant, de la nouvelle appellation. Un PPTQ normal, ça va me prendre une journée au complet, ça va être environ 8 heures de judging. Puis, c'est ça. On négocie tout le temps avec l'organisateur du tournoi une certaine compensation.
Fait que tu joues moins à Magic qu'avant.
Beaucoup
right.
Beaucoup moins. Parce que tu, dans les événements compétitifs, tu peux pas jouer et juger en même temps. Ça serait un non-sens.
Non.
Mais dans les événements réguliers, c'est permis. T'sais, dans les pre-releases, dans les FNM, tu as le droit de juger et de jouer en même temps.
Puis, est-ce qu'il y a beaucoup de juges? Est-ce que vous en manquez?
Au Québec, les niveaux 1, on en a quand même beaucoup. J'ai pas le nombre exact, mais je pourrais dire qu'il y en a à peu près une cinquantaine de niveau 1 au Québec facilement.
OK, OK.
Des niveaux 2 au Québec, le compte, je pense, est à 7.
OK.
Il y a 6 autres comme toi, là.
Ouais, à peu près.
Puis si tu es comme Highlander, à la fin, il faut juste qu'il en reste un?
Non.
Puis après ça, le niveau 3, ben là, il faut peut-être traverser l'espèce de gros gouffre sur la petite liane, là, traverser dessus. Puis après ça, il te donne la clé qui te permet d'ouvrir le temple secret.
Mais il faut que tu reviennes, à la même liane.
Ouais, en transportant un alligator sur ton dos.
Alors, l'idée niveau 3, on n'en a pas au Québec.
Il n'y en a pas?
Il n'y en a pas au Québec.
C'est quoi qu'est-ce que c'est un niveau 3?
Un niveau 3, c'est le plus haut niveau de juge possible en ce moment. C'est ceux qui vont être les team leads, les chefs d'équipe dans les Grands Prix. Ça va être ceux qui vont juger le Pro Tour. Tous ceux que vous voyez dans les Pro Tours, c'est des niveaux 3. Sinon, c'est ceux qui vont juger, qui vont head judge, qui vont être le juge en chef des...
Puis toi, pour devenir niveau 3, qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses?
Pour devenir niveau 3, la checklist est excessivement longue. Je m'embarquerai pas là-dedans, je pourrais faire un autre podcast au complet là-dessus. Mais niveau 3, il faut que tu dédies une très très bonne partie de ta vie à Magic.
Ok.
C'est très très très...
Ça devient un problème social, genre tranquillement.
À peu près.
Ouais, c'est ça, asperger seulement. Hey, mais merci, on va tomber maintenant dans le contenu, le vrai. Parle-moi d'anecdotes, des affaires que t'as vues, toi. T'as une carrière quand même assez jeune, mais pas nécessairement juste en tant que juge, en tant que gars qui s'est promené dans plusieurs salles de jeu à Montréal et tout.
C'est PG-18, hein, fait que tu peux te gâter.
Des anecdotes. Habituellement, quand on juge, la plupart du temps, on regarde pour ce qui pourrait avantager un joueur, puis des choses qui normalement devraient pas arriver. C'est rare qu'on va intervenir dans une partie quand ça avantage le joueur qui fait l'erreur. Mais récemment, dans un tournoi construit, il y a quelqu'un qui jouait, qui avait Niv-Mizzet en jeu, le nouveau Niv-Mizzet de Guild of Ravnica qui coûte...
Le 3 bleu, 3 rouge.
C'est ça, le 3 bleu, 3 rouge, 6-6, flying. Puis quand tu joues un instant, quand n'importe qui casse un instant ou une sorcery, tu peux piger une carte. Puis quand tu piges une carte, tu peux faire un dommage. Niv-Mizzet fait un dommage. C'est très important que ce soit Niv-Mizzet qui fait un dommage. Pour mon anecdote, la personne avait joué Deafening Clarion. C'est la blanc-rouge 1 qui a deux modes. Tu peux faire un ou les deux. C'est donner tes lifelink à tes créatures, faire 3 dommages à toutes les créatures en jeu. Puis, il avait dit comme ça, je vais faire les deux modes, même si ça change rien, parce qu'il n'allait pas attaquer avec son Niv-Mizzet. Mais après ça, dans le tour, il a joué Chemist's Insight, qui est la carte bleue, 1 bleu, 3 colorless, en instant. Tu piges 2 cartes, ça le jumpstart.
C'est bon, ça.
Fait qu'il a pigé une carte avec le Niv-Mizzet. Après ça, il a fait un dommage. Il a pigé ses 2 cartes de le Chemist's Insight. Puis, il a fait 2 de dommages. Puis, il a passé le tour. On a dû intervenir parce que...
Il avait oublié son trigger de son autre affaire.
Non, son
lifelink. Lifelink. C'est ça que je veux dire.
C'est ça. Mais lifelink, c'est pas un trigger. C'est une règle.
Je veux dire, il était trigger, le gars. Il avait déjà donné lifelink à Niv-Mizzet, fait que ça triggerait quand il faisait le 1 dommage.
C'est parce que sur la carte, c'est écrit que c'est Niv-Mizzet qui fait un dommage. On a dû intervenir dans la partie pour lui dire, en passant, t'as gagné 3 de vie. Puis je vais devoir te donner un avertissement parce que t'es pas marqué. Fait qu'on a dû lui donner un avertissement pour quelque chose favorable qu'il avait pas fait.
OK, ben oui.
Quand même.
Ça fait du sens, mais tu sais, c'est le genre de choses comme ça. Où à un moment donné,
c'est quoi ça, ces avertissements-là? Après combien?
Ça dépend des avertissements. Dans ce cas-là, le troisième va être upgradé à « tu viens de perdre la partie ».
OK.
Le troisième de ton tournoi, en gros, t'as 2 catégories d'avertissements. T'as ce qu'on appelle les...
Cartons jaunes.
Les Game Rule Violations. Ça, c'est quand on brise une règle de Magic. T'as plusieurs sous-catégories, puis quand t'as 3 avertissements dans la même sous-catégorie, ça devient une... Tu perds la partie en cours.
OK. Est-ce que c'est reseté à chaque game?
Non. C'est reseté à chaque coupure dans les grands tournois.
OK.
Fait que quand tu coupes, mettons, entre le Day 1 et le Day 2 dans un Grand Prix, là, c'est reset.
OK.
Oh, OK.
Ouais.
Mais après le tournoi, tu les as plus, là.
Non, c'est ça. Ça, c'est,
ça te
c'est...
suit pas dans ta
non,
vie.
Non, non, ça, c'est pour chaque tournoi.
Your permanent record.
Puis après ça, t'as les tournament error, qu'on appelle ça. C'est, mettons, t'as oublié de remettre ton deck, ta configuration de 60 cartes, t'as oublié des sideboards, ton deck, ta decklist c'est pas légal, etc. Des choses comme ça. Il y en a une petite partie de ces erreurs-là qui vont te donner un avertissement. Dans ce cas-là, c'est deux avertissements. Le deuxième devient une game loss. Puis après ça, t'as des avertissements.
Puis c'est des 2-3, fait que si tu perds une game, c'est quand même un rough, là.
C'est ça. Puis après ça, dans les autres pénalités qu'on peut donner, qu'on n'aime pas donner, en passant, pour ceux qui pensent que les juges se lèvent le matin puis qui se disent combien de pénalités...
J'ai un quota à punir.
On veut pas donner de pénalités. On n'aime pas ça, mais il faut le faire parce qu'il faut le faire. Les deux autres pénalités possibles, c'est le match loss, c'est tu perds le match au complet, puis la disqualification. La disqualification, c'est ton événement est fini.
Ouais, ça tu nous as déjà parlé de quelqu'un qui avait été disqualifié. As-tu déjà passé par là?
J'ai déjà disqualifié quelqu'un. C'est pas moi théoriquement qui l'a disqualifié parce que j'étais pas le head judge à ce moment-là. J'étais pas le juge en chef. Mais en gros, il y a une règle dans Magic pour éviter que Magic devienne vu comme du gambling. L'issue de la game peut pas être déterminée par quelque chose qui est purement du hasard. Puis dans un PPTQ, malheureusement, on était rendu à la fin de la game. C'était 1-1, ça allait faire une nulle 1-1-1. Et dans les compétitifs, au début, tu veux pas avoir une nulle parce que ça te donne juste un point à place de 3 pour une victoire. Fait que les deux joueurs essayaient de faire que leur opponent leur concède la game. Puis ça tournait en rond, fait qu'on a dit bon, ça va nous prendre une décision, sinon ça va être une nulle. Puis un des joueurs, malheureusement, étend la main, va chercher des dés, puis il dit on va rouler pour voir qui va gagner.
Oh!
Rendu là, on n'a plus le choix.
Ah, pour vrai?
Il faut disqualifier le joueur.
Parce qu'il a proposé de régler ça avec du gambling.
Il était peut-être juste pas au courant.
Ouais, même s'il était pas au courant, il y a des règles. Bribery. Essayer de corrompre quelqu'un. De déterminer l'issue d'un match de façon aléatoire, on n'a pas le choix. Même si la personne ne le sait pas, on doit disqualifier la personne. Parce que sans ça, Magic pourrait être considéré comme un événement de gambling. Puis là, ça nous prendrait des permis de l'Auto-Québec pour enrouler, puis etc.
On
veut pas s'en aller là.
Il a perdu son match pour la communauté.
Il a perdu son match, puis...
Il a pris une balle pour l'équipe.
Après ça...
Et c'est quand même un très bon conseil qu'on vient de donner à tous nos auditeurs. Faites pas ça. Brassez pas une victoire au dé. Mais c'est donc bien weird comme contexte, ça. Me semble que j'aurais fini ma game, tu sais.
C'est parce que ça arrive souvent dans les événements compétitifs quand les gens... Parce que les événements compétitifs, cet événement-là, c'était le feu des PPTQ qui vont bientôt ne plus exister, qui étaient les Preliminary Pro Tour Qualifiers. C'était le premier tournoi dans... la lignée pour aller vers le Pro Tour. Il va toujours avoir une coupe au top 8 dans ces tournois-là. Mm-hmm. Fait que les gens veulent pas faire une nulle à la ronde 2. Les gens veulent pas faire une nulle à la ronde 2 parce que c'est quasiment comme une défaite.
Okay.
Fait que ça arrive assez souvent. Quand ça arrive pour une nulle, les gens vont essayer de faire du talking, de parler back and forth pour voir qui va concéder.
Comment tu peux... Fait que tu devrais abandonner, moi je vais être meilleur que toi après, là, laisse-moi ma chance. Toi, gars, ton deck, t'as juste été mardeux cette game set, puis ça paraît qu'il est moins bon que le mien, là. Moi j'ai pas été mardeux. Là.
Ça peut être dit de même. Des fois, c'est que tu vas regarder le board state, puis t'es mort le tour d'après.
Okay.
Si t'es mort le tour d'après, des fois le monde va faire bon, mais regarde, j'aurais été mort, puis je peux pas m'en sortir, fait que tiens, je vais te la donner.
Tu devrais résoudre ça qu'une game de Pug.
Ah ouais, bring back the puck. Ben sinon, est-ce que t'as une autre anecdote à nous raconter?
Ben, je vais lier l'anecdote avec un conseil que je veux donner à vos auditeurs.
Bien sûr.
Quand un juge vient vous voir parce qu'il veut parler de quelque chose, soyez franc, soyez direct, puis c'est correct de pas se rappeler, puis c'est correct de pas savoir. Parce que ça va lier à mon anecdote. C'est quelqu'un que je connais très très bien. Un juge vient le voir puis il demande de le suivre pour aller faire un deck check parce que sa table, il vérifiait leur deck. Parce que dans tous les événements compétitifs, faut qu'on vérifie les decks.
Oui, ce soit égal.
Pour que ça soit égal puis pour éviter que le monde essaye juste de tricher. Bien, ça adonnait que dans son deck de 40 cartes, parce qu'on était en sealed, il y avait une carte de sideboard qui était dans son deck puis une carte de mainboard qui était dans son sideboard board. Fait que le deck était pas légal pour la première partie. Fait que le juge vient le voir, puis il demande comment ça se fait que la carte est dans le main board. Puis là, c'est là que la personne se rappelait pas. Puis il faut dire qu'à ce moment-là, elle était 5-1 dans le Grand Prix. Une victoire de plus, un match qui gagne de plus, l'amenait à son premier jour 2 dans le Grand Prix. C'est quand même un très bon...
Il était sur une lancée.
Ouais, il était sur une très bonne lancée. Puis, il va dire au juge, ben c'est probablement quand j'ai pris mon deck de ma boîte, j'ai dû prendre la carte en même temps avec. J'ai dû en grabber les poignées.
Ouais.
Puis c'est pour ça qu'elle est là. Le problème avec ça, c'est parce que t'en as 40. Si t'en avais eu 41, puis juste une carte de sideboard de plus, c'est très possible.
C'est ça.
Mais là, t'en avais exactement 40. Ça veut dire que quand t'as pogné ton deck, t'as une carte de plus qui est venue, puis il y a une carte de moins qui est restée dans la boîte, puis tu l'as pas vue.
Ouais.
C'est un petit peu douteux, tu sais. Fait que, tu sais, le juge, il commence à y parler, puis il dit, mais t'aurais pas dû avoir 41 cartes, c'est ça, ça s'était arrivé, etc. Puis là, la personne dit, ah, attends, je pense que j'ai sideboardé dans ma game d'avant. Non, ça fait pas de sens parce que la carte, c'était un Disdainful Stroke, c'est un counter-target spell pour les spells qui coûtent 4 ou plus. Il dit peut-être que j'ai sideboardé dans la game d'avant. Ah, non. Parce que mon adversaire jouait pas des cartes avec beaucoup de mana cost. Fait que, non, j'aurais probablement pas sideboardé. Puis là, après ça, il change son histoire une autre fois, puis il dit je me rappelle plus si c'était main ou était side. S'il aurait juste commencé avec je me rappelais pas qu'il était main ou qu'il était side, il aurait pas été disqualifié.
Ouais.
Mais c'est... Ouais, je vois genre.
C'est, fait que si un juge vient vous voir pis dit « Pourquoi t'as fait ça? » Si vous saviez pas que vous aviez brisé une règle, c'est correct de pas savoir que vous avez brisé une règle. Mais dites pas... Enfoncez-vous pas. Soyez honnête, soyez franc. Parce que si vous mentez à un juge pis on s'en rend compte, c'est pas mieux pour vous. Mais soyez honnête, soyez franc. Pis c'est correct de pas s'en rappeler pis c'est correct de pas savoir.
Je pense qu'on va terminer cette semaine avec
oui,
ça. Hein?
C'est bon,
ça marchait à la commission Charbonneau. Pourquoi ça marcherait pas dans des tournois de Magic?
ouais, mettons. Ça veut pas, c'est pas parce que vous rappelez pas que vous êtes off the hook puis que ça sera pas du cheating. Mais... C'est mieux ça qu'un mensonge.
Effectivement. Ben, merci beaucoup, Maxime.
Sans problème.
C'est un plaisir encore une fois cette semaine. Jason, merci.
Oui, allez liker notre page Facebook puis la page de podcast. Abonnez-vous au podcast.
Ben oui.
Puis vous allez voir, il y a plein d'autres podcasts sur plein de sujets, la lutte.
Oui, c'est vrai. Il y a le carré rond de notre collaborateur Martin Godette. Check ça comment il est content. Décris-moi comment Martin est content, François.
Il y a des dents blanches partout dans la face.
Et voilà. Hey, merci beaucoup à toi aussi, François Lompré.
Ah, ben, moi, ça me fait encore plaisir. Hein?
On a hâte de relire encore tout plein de mimes que tu vas nous créer sur notre page de Terrain Basique. Merci à tout le monde de nous suivre et encore une fois on vous souhaite à tous le minimum de Mana Screw.
Tu veux participer à l'évolution de Productions Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E ou écris-nous à podcast@commercial.icloud.com. Fais partie de l'aventure Productions Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com.